BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est la journée de la Banque Centrale Européenne, une première hausse de taux décidée au début de l'été et puis pour saluer l'arrivée de l'automne a priori 75 points de base qui nous attendraient du côté de Francfort où on retrouve Aude Kersulec. Bonjour Aude, merci de suivre cette journée mouvementée en tout cas météorologiquement parlant visiblement autour de vous. On verra si c'est le cas aussi du côté des taux. La Banque Centrale qui veut marquer le coup dans cette lutte, 75 points de base de taux directeur, c'est ce à quoi s'attendent les analystes et ce serait une première, Aude.
Oui, c'est vrai, une hausse inédite face à une situation inédite. Cette inflation à plus de 9% sur un an, dernier chiffre du mois d'août. Mieux vaut frapper fort que pas assez contre l'inflation. C'était le message d'Isabelle Schnabel à Jackson Hole. Isabelle Schnabel, l'allemande envoyée par Christine Lagarde à ce forum de banquiers centraux. Alors, elle avait paru déterminée à lutter contre l'inflation et d'autres membres de la BCE depuis ont suivi le même credo. Priorité donnée à la stabilité des prix, quelles qu'en soient les conséquences sur la croissance. Et depuis ce durcissement de ton, eh bien, les analystes ont anticipé cette hausse de taux de 75 points de base, 0,75%, ce qui serait une première. Alors si la BCE n'augmentait ses taux que de 50 points de base, eh bien, finalement elle prendrait le risque de ne pas paraître assez crédible, assez ferme dans sa lutte contre l'inflation, ce qui pourrait quand même flouter son message.
La BCE veut rattraper finalement son retard sur la Fed, c'est ça ?
Oui, parce qu'aux États-Unis, on a quand même eu un discours et puis même dans les faits, quelque chose de plus sévère. 4 hausses de taux, ce qui a quand même porté ses fruits. Alors, il y a les prix, mais il y a la monnaie aussi, parce que depuis quelques temps, eh bien, la monnaie européenne est au plus bas. On est même passé sous les 99 cents lundi dans la parité euro-dollar. Les investisseurs préfèrent le dollar, qui est jugé plus sûr aussi parce que les taux américains ont été relevés. Donc, ça offre plus de rendement et ça attire les capitaux. Et puis, soutenir l'euro. Alors, ce n'est pas un objectif officiel de la politique monétaire, mais ça permettrait de contenir les coûts des importations, notamment des importations d'énergie. Donc ça n'arrange pas l'inflation, déjà dure à maîtriser, parce que l'inflation elle provient en zone euro de facteurs externes, notamment la crise énergétique ou encore la Russie.
Un mot aussi de la situation politique italienne, parce qu'on imagine que les gouverneurs ne vont pas pouvoir ignorer tout ça.
Oui, alors Christine Lagarde devrait quand même un petit peu contourner la question parce que c'est une question de politique intérieure liée au choix du peuple italien. Mais il est évident que la BCE a ses élections du 25 septembre en ligne de mire parce qu'avec des taux de banque centrale qui augmentent, ce sont aussi des taux de financement d'État qui augmentent. Et dans ces cas-là, eh bien, les États les plus endettés, les plus fragiles et empruntent encore plus cher, ce qui serait le cas de la dette de l'Italie, de la dette italienne qui serait attaquée. Alors la BCE dispose de tout un arsenal d'outils pour lutter contre cela. Elle nous avait présenté en juillet dernier cet outil anti-fragmentation qui n'est pas encore vraiment mis en place, mais un outil qui est conditionné à la mise en œuvre de politiques budgétaires en cohérence avec une réduction de la dette publique, ce qui n'est pas vraiment en phase avec ce que dit la favorite des sondages en Italie. Voilà pourquoi officiellement la BCE ne se positionnera pas, mais quand même on peut attendre un commentaire de la part de Christine Lagarde pendant la conférence de presse cet après-midi.
Aude Kersulec, on vous retrouve tout au long de la journée pour suivre bien évidemment cette réunion de la Banque Centrale Européenne.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Autour de la table, Olivier Droyer pour Montpensier Finance et Emmanuel Salle pour Financière de la Cité. Bonjour messieurs, merci d'être au rendez-vous ce matin. Jour J pour la Banque Centrale Européenne, on le dit, on le redit et on va passer un large moment à évoquer cette Banque Centrale. Mais avant d'abord, votre regard sur la tendance de ce marché qui semble un peu se chercher depuis la fin août là.
Oui, très clairement, il y a eu un peu le choc de Jackson Hole avec cette agressivité renouvelée des banques centrales, alors que certains espéraient une phase de pause à l'horizon peut-être du mois d'octobre. Donc ça a été clairement un choc pour les marchés. Et du coup, maintenant, en fait, les marchés attendent ces réunions de banques centrales. Et tant qu'effectivement ces réunions ne sont pas passées, en général, on dit « don't fight the Fed ». En général, c'est plutôt un argument positif, puisque en général, les banques centrales veulent faire plutôt monter les marchés. Mais enfin là, on a des banques centrales qui sont clairement hostiles. Et donc on va attendre de voir ce qu'elles délivrent. La BCE aujourd'hui, qui devrait effectivement, ça a été souligné, faire cette hausse de taux historique, la plus importante, probablement 75 points de base. Et ensuite, c'est surtout la Fed quand même. Jusqu'à la réunion de la Fed du 21, les marchés risquent d'être volatiles. On va voir si la Fed finalement traduit son discours, notamment dans des projections chiffrées beaucoup plus agressives ou pas. Si ce n'est pas le cas, les marchés pourraient peut-être rebondir après la Fed, d'autant qu'il y a quand même énormément de pessimisme qui est aujourd'hui inclus dans les marchés, dans les anticipations des différents opérateurs. Mais jusque-là, c'est vrai qu'on a une volatilité qui est là, d'autant plus qu'au-delà des banques centrales, le deuxième problème des marchés, c'est cette crise énergétique en Europe.
Comment voyez-vous les choses sur cette forme de prudence ou d'attentisme des marchés, Emmanuel ?
Effectivement, on est dans une période d'incertitude et pour de très bonnes raisons. Je crois que le point essentiel, cela vient d'être rappelé, c'est la position des banques centrales et notamment de la Fed vis-à-vis de l'inflation. On va voir la semaine prochaine la publication du CPI, de l'indice d'inflation aux États-Unis. On va voir comment réagit la Fed. Soit la Fed décide de coiffer les marchés parce qu'effectivement, elle ne souhaite pas une amélioration trop rapide des conditions financières afin justement de lutter contre l'inflation qui est dans le cycle économique américain, soit elle est finalement moins faucon que prévu. Il y a eu ce matin un article notamment de la vice-présidente de la Fed, Ael Brennard, dans le FT, qui a appelé à un peu plus de prudence les banques centrales dans leur lutte contre l'inflation. Je pense que c'est également un message très clair, très net à l'Europe, mais ça concerne également les États-Unis. Si on va trop fort, trop loin, on risque de casser la croissance et de retourner le marché de l'emploi. Et il faut savoir que historiquement, depuis les années 2000, même avant d'ailleurs, la Fed a toujours eu tendance à overshooter, comme on dit dans notre très bon franglais, donc à aller trop loin dans sa lutte contre l'inflation et donc à créer de façon prématurée des conditions de restriction des conditions financières, qui pèsent sur la croissance et l'activité. Ça a été le cas finalement en 2000, ça a été le cas et d'ailleurs également en 2007-2008 au moment de la crise des subprimes, puisque à la base de la crise des subprimes, c'est également une politique monétaire restrictive pendant trop longtemps, il ne faut pas l'oublier. Donc il faut être très prudent sur ces points-là et je crois que les marchés sont dans l'attentisme pour cette raison.
Alors, penchons-nous sur le cas d'espèce de la Banque Centrale Européenne qui va nous préoccuper tout au long de la journée. 50, 75, vous voyez les choses comment ?
Le cœur des marchés balance. C'est vrai que depuis quelques jours, l'option 50, on ne sait pas très bien pourquoi, a repris un peu de poids dans les anticipations. Bon, nous, clairement, chez Montpensier, on est quand même plutôt sur 75. Parce que quand on voit l'agressivité verbale des membres de la BCE depuis Jackson Hole, où on a déjà les faucons qui ont repris la main, c'est pas Christine Lagarde qui a été à Jackson Hole, c'est Isabelle Schnabel, allemande, donc avec un discours plus agressif. Et pour marquer un peu les esprits, on sent que la BCE va plutôt faire 75. C'est vrai que 9% d'inflation en zone euro, par rapport à un objectif à 2. Alors en France, effectivement, on a de la chance, on est quand même à des niveaux qui sont quand même sensiblement plus bas, mais malgré tout, on est très loin des 2. La BCE, en plus de ça, est un peu prise en otage par la Fed, parce que finalement, la posture agressive de la Fed fait baisser l'euro, et quand l'euro baisse, eh bien, les importations augmentent, et donc l'inflation s'en trouve renforcée. Donc pour éviter que cette spirale continue, on pense que la BCE va être un peu obligée de faire 75 points de base.
50 ou 75 ?
Il y a une petite chance pour 50. Il faut savoir que depuis la fin de l'année dernière, de la fin de l'année 2021, ce sont vraiment les faucons qui ont repris la main. C'est Nagel, c'est Schnabel. La BCE s'était prescrit une politique de prudence vis-à-vis de l'inflation. Et depuis quelques semaines, quelques mois d'ailleurs, on nous dit qu'il faut au contraire agir avec robustesse. Et ça a été les mots, effectivement, d'Isabelle Schnabel, la représentante du directoire à la BCE. Ça, c'était l'environnement il y a quelques jours. On sent bien que les choses sont en train de bouger et qu'il y a quelques membres du directoire, quelques économistes également. Je parlais également de l'intervention de Madame Lael Brennard dans le FT, la numéro 2 de la Fed hier, qui commence à dire, mais attendez, faites attention, parce que si vous remontez trop vite et trop fort, vous allez casser la croissance et vous allez casser l'emploi. Il faut savoir que la situation de la zone euro et des États-Unis n'est pas du tout la même. Aux États-Unis, vous avez une bonne inflation, si je puis dire, qui est portée par les salaires et par l'activité. En zone euro, c'est uniquement de l'inflation importée. On a 9% d'inflation, mais l'inflation de point mort, elle est l'inflation corps, elle est de 2,2%. Donc on est vraiment, on n'est pas du tout dans la même situation. Mais il faut savoir que en Allemagne, depuis plusieurs mois, le journal Bild est hystérique sur le sujet de l'inflation. Vous avez les banques coopératives allemandes qui financent le Mittelstand, qui sont laminées par 10 ans de taux négatifs. Mmh. Donc ça a pris un caractère quasiment religieux.
Si on fait 50 et pas 75, est-ce que, enfin, je veux dire, on entend cette petite musique qui dit si on trappe trop fort, il y en a même qui aiguillonne pour 100 points de base en disant peut-être qu'ils n'oseront pas, mais c'est ce qu'il faut. Enfin voilà, donc on entend bien l'argument de ceux qui disent si on fait trop fort, on va peut-être tout casser. Mais si on fait que 50, cette histoire de l'euro par exemple.
À mon avis, très sincèrement, je pense que la remontée des taux d'intérêt ne fait rien par rapport à la parité de change. D'ailleurs, ils n'ont cessé de parler de remontée des taux d'intérêt depuis 6 mois. Le dollar n'a fait que s'écrouler pour une raison très simple, c'est que c'est pas les taux d'intérêt, contrairement à ce que j'ai entendu là il y a quelque temps, une personne que vous aviez interrogée, qui c'est pas les taux d'intérêt qui font la différence de monnaie. C'est pas non plus les déficits courants ou la dette. Hein. Regardez les États-Unis, ils sont en situation d'une dette publique importante, ils sont en situation de déficit courant et le dollar monte. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, vous avez de la croissance, parce que vous avez une visibilité. La monnaie, c'est comme une action sur un État. Enfin, c'est pas simplement ça, mais c'est en grande partie, c'est ça. C'est pas comme la dette d'un particulier ou d'une entreprise. Donc, aux États-Unis, vous avez une véritable stratégie économique. Ils ont relancé leur activité. Ils ont effectivement un problème d'inflation interne qu'ils sont en train de bien piloter, plutôt bien gérer. Et donc, c'est normal que le dollar s'apprécie. En plus, vous le savez, c'est la valeur refuge. L'euro, ben, aujourd'hui, on a les problèmes de l'Italie, le problème de l'Ukraine, qui n'est à peine évoqué par les BCE. Il faut savoir que dans le discours de Mme Schnabel, on parle d'inflation une dizaine de fois, le mot Russie n'est prononcé qu'une seule fois. Et on met sur le même plan la hausse des métaux rares qui sont destinés à fabriquer des batteries électriques et la hausse du prix du pétrole, comme si la hausse du prix du pétrole n'était pas déclenchée en grande partie par l'agression russe. Donc la BCE, elle me semble vivre dans un univers totalement hors sol, et je suis assez, dans cette condition-là, je ne suis pas surpris que le dollar s'apprécie par rapport à l'euro et que l'euro baisse, parce qu'il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas d'une certaine manière de crédibilité de l'action de la BCE en la matière.
Oui, Olivier. Sur le moyen terme, c'est évident que la politique de taux n'est pas forcément le principal driver. On voit bien qu'il y a une grande corrélation entre l'euro et les prix du gaz. Hein. On voit bien que dès qu'on s'alarme plus sur le gaz, dès qu'il y a une restriction de gaz plus importante,
c'est la récession l'euro qui pilote baisse.
Il y a à la fois l'aspect différentiel de croissance qui joue, et il y a également les prix du gaz et des matières premières en général qui jouent sur le solde commercial. C'est-à-dire que les États-Unis sont toujours en déficit commercial, mais la zone euro qui avait un excédent commercial fort, effectivement cet excédent, lui, est mangé par les prix des matières premières, et donc ça a un impact sur la valeur de l'euro. Mais à court terme, il y a quand même une espèce de sentiment, alors qui est peut-être à tort ou à raison, effectivement on peut discuter sur le fond, mais la BCE est portée par ce sentiment politique qu'elle a besoin de réagir, et à très court terme quand même, les marchés réagissent aussi par rapport à ce que peut faire la BCE. Donc c'est vrai que on a le sentiment que pour que la BCE puisse être un peu plus libre de ses mouvements, il faudrait être passé dans une phase où la Fed a un discours un peu plus doux. Mais c'est quelque chose qui pourrait peut-être arriver d'ici 2-3 mois. C'est-à-dire que la Fed, elle regarde l'inflation, l'Europe, elle est en retard dans le cycle, et si l'inflation américaine, ce qui pourrait arriver d'ici 2-3 mois, commence à être plus faible, à ce moment-là, les choses pourraient évoluer.
Bon, mais c'est-à-dire que, si je vous comprends bien, il y a surtout eu un problème de crédibilité de la Banque Centrale Européenne ?
Alors, crédibilité, le mot est peut-être un peu fort, et c'est vrai que je l'ai proféré, mais on peut se poser la question. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à la fin de l'année dernière, la BCE était engagée dans une revue de sa politique monétaire. Et on disait, face à l'inflation, il faut regarder, est-ce qu'on a de la bonne inflation ou de la mauvaise inflation ? La mauvaise inflation, c'est celle qui vient par la hausse du prix des matières premières, sur laquelle une banque centrale ne peut pas grand-chose. La bonne inflation, c'est celle qui provient de l'activité, de la hausse des prix des salaires. Et là effectivement, quand la machine s'emballe, il faut calmer la surchauffe et on remonte les taux d'intérêt. C'est le rôle d'une banque centrale. Et donc, on avait cette doctrine-là qui était arrêtée, qui était proférée d'ailleurs par des membres éminents du directoire de la BCE jusqu'à la fin de l'année 2021. Et puis, petit à petit, les choses se sont inversées. Les faucons, effectivement, ont repris le pouvoir. Nagel, qui a un agenda déflationniste tout à fait déterminé. Madame Schnabel, qui théoriquement, d'ailleurs, au directoire ne représente pas l'Allemagne, parce que lorsque vous êtes membre du directoire de la BCE, vous devez abandonner en quelque sorte vos anciens habits. Ouais. Hein, vous êtes apatride, si je puis dire. En tout cas, vous regardez les choses suspecté à eternitatis. Donc, d'un point de vue absolument universel et général. On doit reconnaître néanmoins, quand on voit son papier à Jackson Hole, qu'elle reste derrière une apparence de modernité très dépendante des schémas les plus conservateurs du capitalisme allemand. Donc, là, je pense qu'il y a de véritables enjeux pour la BCE, des enjeux qui sont liés à la crise énergétique. liée à la guerre en Ukraine et liée également au risque de fracturation de la zone euro avec effectivement les élections italiennes, vous en avez parlé, la dette italienne est revenue à des prix de crise et donc on est dans un contexte où les conditions financières se tendent, les ménages vont devoir faire eux-mêmes des économies en raison de la hausse du prix du pétrole, la demande donc va s'ajuster naturellement. Et la BCE remonterait ses taux de 75 points de base. Il va falloir quand même expliquer ça aux populations.
Voilà donc pour cet aspect européen. Et aux États-Unis alors, parce qu'effectivement, il y a ce corollaire qu'on travaille souvent entre les deux rives.
Aux États-Unis, il y a un discours des banques centrales qui est assez agressif, mais il y a quand même quelques bonnes nouvelles, notamment sur le front inflationniste, qui sont peut-être un peu ignorées par les marchés, même si hier, on a le sentiment que ça a commencé un peu aux États-Unis. C'est-à-dire que les matières premières ont quand même pas mal baissé. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut, mais le pétrole est quand même passé de 130 sur le Brent à 88 ce matin. Bon, donc les autres matières premières, même les céréales, effectivement, on entend que les prix de l'alimentation montent énormément, mais sur les marchés, les céréales ont quand même reperdu 25%. Les métaux industriels également. Bon, en plus de ça, on avait eu une inflation aux États-Unis en juillet qui avait été plutôt une légère bonne surprise, avec notamment sur le plan sous-jacent, donc hors éléments volatiles, des surprises plutôt positives et qui se confirment dans les dernières statistiques économiques. C'est-à-dire quand on regarde le rapport de l'emploi, on voit que la composante salaire n'est pas finalement est plutôt un peu plus basse que prévu. On voit qu'il y a un début de retour de participation à l'emploi après la grande démission. Dans les ISM, on voit aussi les composants de prix qui finalement sont un peu en dessous des attentes. Donc tout ça milite avec des effets de base sur les prix qui vont être plus élevés de nouveau à partir du mois d'octobre pour quand même probablement un ralentissement un peu plus marqué que ce qu'on pense de l'inflation aux États-Unis. Et donc peut-être que là, après les mid-term, on pourrait avoir une inflexion du discours de la Fed par rapport au discours très dur de Jackson Hole.
Là encore, oui, vous évoquiez les élections italiennes pour le versant européen. C'est vrai qu'il y a les mid-term aux États-Unis pour le versant américain.
Bah, les mid-term, il n'y a pas que l'inflation et l'économie comme enjeu. Hein. Il y a quand même beaucoup d'autres sujets. Mais de ce point de vue, du point de vue de l'économie et de l'inflation, je trouve quand même que le pilotage est assez bon quand même aux États-Unis. Hein. Mmh. Ils ont boosté la demande durant le Covid. D'ailleurs, c'est l'une des raisons de la forte inflation, c'est quand même les subventions versées aux ménages américains durant cette période. Ils ont effectivement une relance interne, ce qu'ils souhaitaient. Et donc, bon, la Fed est en train de calmer les choses. Et je pense qu'on a plutôt de bonne visibilité. D'ailleurs, ça se traduit aussi dans les enquêtes d'opinion. On voit que la situation des démocrates et de Biden ne serait pas si mauvaise qu'on le pense. Mais là, on sort un peu du sujet. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que l'inflation, je partage tout à fait cet avis, elle va baisser. Elle va baisser ne serait-ce que par l'effet de la demande. Hein, quand les prix sont trop chers, sur un marché de matières premières, vous avez un ajustement par la demande. C'est parfaitement logique. Et d'ailleurs, les hedge funds à Londres parient plutôt sur la baisse des prix du gaz à terme. Hein, parce que vous allez avoir un ajustement naturel par la demande. Alors, c'est vrai, si en plus la BCE remonte les taux d'intérêt, je pense que là on peut s'attendre effectivement à ce que ce scénario se réalise au-delà de nos prévisions.
Autre zone et autre élection, on va mettre beaucoup de guillemets, c'est en Chine, où on a le congrès qui s'approche, et là aussi il y a des questions de mesures de soutien pour essayer de sortir l'économie du marasme, sans qu'on ait vraiment l'impression que ces mesures convainquent le marché. Comment vous voyez évoluer ces questions chinoises?
Les chiffres sont pas bons, hein. Quand on regarde froidement, alors ils sont pas toujours très fiables, mais enfin le PMI de Chine est en dessous de 50, les ventes au détail quand même du mois dernier un peu en dessous de 3%, pour la Chine c'est quand même pas terrible, parce qu'on voit bien que oui il y a des mesures de relance, mais comme on continue à avoir des confinements, une politique zéro Covid quand même assez dure, alors avec le confinement de Chengdu la semaine dernière, alors c'est un peu moins violent que ce qu'on a connu à Shanghai, mais c'est vrai qu'on freine d'un côté, on accélère de l'autre, et puis il y a quand même le sous-jacent immobilier qui est assez fragile. On voit des destructions de tours. Alors, remarquez, c'est une façon de réduire l'offre plus rapidement que ce qu'on peut avoir, qu'on a pu avoir avec la crise immobilière espagnole. Mais enfin, tout ça pèse. Donc, on sent qu'il y a beaucoup de batailles en coulisses avant ce fameux congrès du 16 octobre. Xi Jinping devrait être conduit, mais dans quelles conditions, avec quel pouvoir, pour quelles inflexions politiques, ce sera des sujets importants. Aujourd'hui, c'est une zone qui se porte quand même pas très bien.
La Chine?
Je crois qu'effectivement, il y a pas mal de problèmes. C'est que la Chine, elle a bâti sa croissance depuis une vingtaine d'années sur l'investissement, essentiellement sur l'investissement, notamment l'investissement immobilier. Xi est venu au pouvoir dans l'idée de rééquilibrer la croissance en faveur de la demande interne. Finalement, c'est la logique même de la nouvelle prospérité, hein, ce thème qu'il a lancé il y a un peu plus d'un an. Là, aujourd'hui, quand même, on a des problèmes de fond qui sont liés à ce surinvestissement dans l'immobilier, au problème du zéro Covid, qui fait que la Chine est aujourd'hui totalement fermée, et puis également au problème problème de la sécheresse qui a été extrêmement forte cet été. Donc on a toute une série de difficultés qui font qu'à mon avis, la Chine ne deviendra pas, comme elle le souhaite, la première puissance mondiale. Je serais surpris que la Chine dépasse les États-Unis à l'horizon de 2030. Vous avez en plus le problème démographique. Donc il y a moins de Chinois qu'avant.
Ouais. Ça devrait s'accélérer parce que ce sont des tendances très lourdes.
Et vous savez, ce sont des dynamiques qu'on ne change pas du jour au lendemain. C'est très profondément ancré dans les mentalités chinoises. Donc compliqué.
Bon, une fois qu'on s'est dit tout ça, Olivier, qu'est-ce qu'on fait en bourse? Comment est-ce que vous voyez la fin d'année se dessiner, en fait?
Il y a beaucoup de pessimisme et on sait qu'effectivement, avec une inflation structurelle un peu plus forte qu'avant, mais qui va quand même se normaliser, les actions, les sociétés sont quand même capables assez bien de passer les prix dans des secteurs qui sont globalement cartélisés avec beaucoup plus de oligopoles qu'avant. Donc, structurellement, on a quand même envie d'être investi en actions. Il y a beaucoup de pessimisme. Après, il faut être prêt à ce que cet automne, le mois de septembre est toujours un mois difficile en bourse, on a ces échéances des banques centrales. Clairement, ça peut créer de la volatilité. Donc, il faut avoir des munitions pour pouvoir éventuellement intervenir sur les marchés, sur des points de volatilité excessive, qui effectivement peuvent être créés par ces banques centrales. Mais voilà, structurellement, il faut être quand même un peu investi parce qu'effectivement, tous les actifs souffrent du contexte et au moins les actions ont un potentiel de rebond qu'ont peut-être pas d'autres classes d'actifs.
Bon. Et vous, Emmanuel
Écoutez, moi, je pense qu'il faut s'attendre à un nouvel environnement d'inflation. C'est-à-dire qu'on a vécu pendant 20 ans avec une inflation à 2%. Je pense qu'il faut s'attendre à environ 3% d'inflation. Je ne serais pas surpris que dans quelques mois, on explique notamment aux États-Unis, mais ça infusera en Europe, que finalement, c'est pas 2, c'est 3. Hein. Et c'est 3 parce que ça permet un peu plus de croissance, un peu un marché de l'emploi plus dynamique, etc., etc. Donc, il faut orienter ces investissements en fonction de ça. Vous avez des entreprises qui effectivement bénéficient bien de cet environnement, qui peuvent passer leur augmentation de prix, d'autres qui ne le peuvent pas. On a vu ce qui se passe à Duralex il y a quelques semaines.
Hein, bien sûr. Que le fait que les prix du gaz, il n'y a pas que Duralex.
Là, on est obligé de stopper la production. Donc, il faut être extrêmement sélectif dans ses choix. Notre sentiment, c'est que ça va quand même pénaliser des valeurs de croissance qui avaient été fortement portées par la vague antérieure et que ça favorise plutôt des valeurs classiques, des valeurs traditionnelles. On reste extrêmement positif également sur le secteur de l'énergie qui a été en plus fortement pénalisé par les normes ESG qui se sont répandues un tout petit peu partout, malheureusement un peu plus en Europe qu'aux États-Unis. Et sur les taux, il faut être prudent parce que les taux vont remonter, mais là, on a un outil formidable en Europe, ce sont les obligations indexées sur l'inflation, où vous pouvez bénéficier de la remontée de l'inflation de point mort.
Mais pour la fin d'année boursière, en clair, nous, par exemple, sur la sélection de BFM Patrimoine, hier, nos gérants ont décidé de réduire un petit peu l'exposition, de prendre, de grossir un peu la poche de liquidité. Enfin voilà, comment est-ce que
À mon avis, c'est peut-être un peu tard. Il va peut-être le faire avant Jackson Hole, maintenant, c'est peut-être un peu tard. Il faut se préparer si on a des munitions plutôt à racheter. Il faut avoir un fonds de portefeuille qui reste sur des valeurs défensives, si possible pas trop chères, et portées par des thématiques séculaires. Nous, on aime toujours bien le secteur de la santé dans lequel il y a beaucoup d'innovation. On aime bien le secteur de l'énergie sous l'angle de la transition énergétique. Et puis, en termes plus tactiques, il y a peut-être quelques sujets sur lesquels on peut reprendre un peu plus de risques. C'est-à-dire que, notamment, il y a tout le sujet de la pénurie des composants qui a pénalisé, finalement, les entreprises depuis 18 mois. Aujourd'hui, elles nous disent toutes que, c'est en train de se terminer. Ce sera quasiment terminé à la fin de l'année, avec sans doute des baisses de prix l'année prochaine. Donc, des sociétés dans l'informatique qui consomment pas mal de serveurs peuvent être intéressantes. Et puis, si vraiment on peut prendre un peu plus de risques aussi sur les équipementiers automobiles qui pourraient être finalement bien placés par rapport à la transition énergétique, pas ceux qui sont sur les moteurs traditionnels, mais il y a des valeurs qui sont très basses. Bon, on est sur un cycle qui est déjà très bas et c'est des gros consommateurs de composants. Donc, peut-être que si on veut être un peu audacieux, certains peuvent commencer à être mis en portefeuille.
Et vous ?
Écoutez, moi, je pense qu'il
peut... Un peu de liquidité, pas de liquidité.
Un peu de liquidité, mais ça tout dépend de l'horizon. Moi, à long terme, je demeure optimiste. Je pense qu'on va sortir de cette affaire ukrainienne, et je pense qu'on va mettre en œuvre différents outils, différents moyens qui permettront d'abaisser durablement le coût de l'énergie. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a certainement une démondialisation. Donc ça, il faut savoir quelles sont les valeurs qui vont en tirer parti. Et je pense qu'on peut rester en action. Il y a beaucoup de choses à faire dans un climat comme celui-ci. Il faut, à mon avis, se dire qu'on est en train de changer de monde et en tirer les conséquences dans les portefeuilles.
Emmanuel Salle, financière de la Cité, Olivier Droyer pour Montpensier Finance. À très bientôt.
Merci.
Et merci d'être passé beaucoup Nous voir pour ce regard croisé. Dans un instant, un petit coup d'œil sur les marchés, bien évidemment. Techniquement, on va voir un petit peu ce qu'il faut penser de ce marché qui avait démarré fort, puis qui avait marqué le pas, et puis qui revient un petit peu avec un peu plus de morale, plus 0,3%, 6124 points. Puis également les replays que vous n'oubliez pas, ils vous attendent sur notre site ou sur nos plateformes partenaires et ils vous permettent de retrouver tout ou partie de l'émission à votre convenance.
BFM Business. l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Allez, il nous reste une demi-heure à passer ensemble. On file tout de suite sur le marché. C'est Jean-Louis Cussac que l'on retrouve chez Perceval Finance Conseil. Comment voyez-vous évoluer cette tendance en ce jour de Banque Centrale Européenne, Jean-Louis ?
Avec beaucoup d'hésitation et de confusion, il n'y a vraiment pas de changement par rapport au jour précédent. Hier, on a fortement progressé à partir de 14h. Ce matin, on a ouvert avec un gap à la hausse, vous rendez compte, donc au-dessus des plus hauts de la veille, en force, vers les 6160. Et puis, depuis, le marché a reperdu 0,97%, sans contrepartie, sans rien. Il y a très peu d'écart sur les valeurs du CAC 40. Il y a trois victimes parmi les grosses valeurs. C'est Atos, Somfy et puis Chargeur. Bon, pour le reste, c'est sur le CAC, c'est très très calme. Vous vous rendez compte, on était à 380 millions d'échangés à 10h30, 380, et là on n'est même pas à 500 millions et il est 11h30. On attend évidemment la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Bon, voilà, c'est tout le monde maintenant, je pense, a accepté d'attendre. Les marchés restent super résilients. C'est vrai, ils hésitent, mais ils sont très 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 résilients. Et s'il y a du pessimisme, je l'entendais tout à l'heure, disons de la méfiance, en tout cas, il n'y a pas de complaisance sur ces marchés, comme le montre la volatilité implicite, elle est à 23, donc c'est une hyper méfiance, et c'est pourquoi il n'y a pas de relais vendeur. Vous voyez, on a tenu les 6000, je vous disais, il est peu probable qu'on puisse dévisser, et il est probable qu'on puisse rebondir un peu, sans pour autant exploser à la hausse, bien évidemment. Parce que les motifs de baisser, il y en a, des motifs fondamentaux, il y en a. Et vous voyez bien que les motifs, enfin, les phénomènes de construction de marché avec les protections apportées par les options, notamment les achats de puts, achats de volatilité, évidemment, font que, il n'y a pas de vendeur potentiels, ils sont protégés, donc ils vendent pas, ils patientent. Et de toute façon, les gérants, ils sont pas stupides, il y a bien longtemps qu'ils ont bien compris la situation. Donc ils sont hyper méfiants eux également, et donc ils sont pas très actifs sur les marchés. Alors les prix de l'énergie reculent, mais attention, ils reculent, mais c'est parce que c'est la demande qui baisse. Les entreprises veulent pas travailler à perte, elles veulent pas produire à perte, donc elles réduisent leur production, et ça c'est pas très bon, récession en Europe probable, etc. Donc on attend beaucoup de choses, bien évidemment. Je cherche toujours à vendre, je vous disais hier, je vends jusqu'à 6175 par exemple, voire même 250, mais 175 c'était un niveau qu'on a pratiquement atteint ce matin, on a fait vendre évidemment, et puis derrière, comme ça a baissé, on a pu racheter. Et là, on garde un seul vendeur de fond. La tendance baissière n'est pas affirmée, mais on a des positions extrêmement light sur les marchés. C'est la même chose sur l'euro dollar. On vend les rebonds. Ce matin, on a dépassé la parité, et puis on est revenu en arrière, et puis on est proche de la parité à 0,9999, mais il ne se passe pas grand-chose là également. On attend la Banque Centrale Européenne à 14h15.
Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, qui nous accompagne très régulièrement, le marché parisien, pour le moment dans le vert pour 0,3%, 6124 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, sur le green.
Et c'est Pascal Bossan que l'on accueille aujourd'hui. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Pour Bossan Conseil. Alors on a tous été marqués cet été bien évidemment par les incendies en France. Et vous nous proposez cette semaine de protéger la forêt avec notre épargne. Comment on fait ?
Alors oui, on peut rappeler en préambule que la forêt occupe à peu près 30% du territoire français. Les forêts.
Et c'est en augmentation.
Les forêts qui sont gérées durablement constituent de véritables puits de carbone. On estime que 15 à 20% des émissions de gaz à effet de serre sont réabsorbées par les forêts françaises chaque année. La forêt, c'est un bien tangible et une ressource écologique. Alors effectivement, voir nos forêts brûler nous fait mal, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut effectivement protéger cette forêt. Alors je vous propose aujourd'hui de découvrir deux axes possibles. D'une part, l'investissement en groupement forestier, et d'autre part, le don à des associations qui œuvrent pour sauvegarder la forêt.
Alors, on commence par investir avant de faire un peu de philanthropie, entre guillemets. Le groupement forestier, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne ?
Alors, un groupement forestier permet d'accéder facilement à la forêt de manière mutualisée et diversifiée. Le groupement forestier s'occupe de tout, des acquisitions, de l'entretien, des coupes de bois. Et les groupements forestiers permettent d'obtenir des avantages fiscaux, que ce soit en matière d'impôt sur le revenu ou de transmission.
Alors justement, on peut bénéficier d'une réduction de 25% si on investit là d'ici la fin de l'année ?
Oui, Cédric, et c'est une opportunité, effectivement. Jusqu'ici, la réduction d'impôt, elle était de 18%. Elle est passée à 25%. Elle a été majorée pour un investissement réalisé avant la fin de l'année. Alors attention, l'investissement dans le groupement forestier, il est soumis au plafonnement global des niches fiscales, donc la réduction d'impôt maximale pour un foyer fiscal en France, eh bien, est égal à 10 000 euros par an. Donc, il faut être vigilant et ne pas hésiter à en parler avec son conseiller préféré.
Alors, groupement forestier, encore faut-il les trouver. Vous avez des exemples ?
Oui, en fait, il existe un acteur important en France qui est France Vallée, V-A-2-L-E-Y. Et le groupement forestier européen qu'il propose est disponible à partir de 1 000 euros, donc un minimum très accessible pour les épargnants.
Bon, n'empêche qu'il y a quand même un risque. On a vu donc le risque d'incendie, par exemple.
Mais oui, il y a aussi le risque de tempête. Les risques naturels sont élevés, effectivement, dans la forêt.
Risques sanitaires aussi.
Absolument, dans la forêt. Alors, les gestionnaires de groupements forestiers peuvent prendre une assurance, mais en général, les assurances ne sont pas forcément globales. Elles ne couvrent pas tout. Donc, ce qui peut protéger les épargnants, eh bien, d'abord, c'est d'avoir une diversification. On peut avoir des groupements forestiers diversifiés partout en Europe, et puis aussi le fait que la forêt...
On n'est pas forcé d'investir que dans les Landes ou que...
Exactement. Et puis, on bénéficie de l'entretien qui est réalisé par les gestionnaires de forêt, mais évidemment, le risque zéro n'existe pas.
Donc ça, ce sont les groupements forestiers. Et puis alors, autre solution que vous évoquiez dans votre propos liminaire, ce sont les associations auxquelles on peut donner. Vous nous en dites un peu plus ?
Oui, on peut rappeler que le don réalisé à une association reconnue d'intérêt général, eh bien, permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 66%. Lorsqu'on réalise son don avant le 31 décembre, eh bien, on va pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt sur son revenu 2022.
Là aussi, dans le plafond des niches fiscales.
Hein. Non, le don est en dehors.
D'accord, c'est le don est en dehors. Comment on fait pour trouver les bonnes associations qui aident la forêt ?
Alors, effectivement, ce n'est pas toujours facile de détecter les associations, notamment sur les thématiques de la forêt. Alors, chaque année, le collectif 1% pour la planète sélectionne des projets. Cette année, il y a 40 projets qui ont été sélectionnés et qui ont besoin du soutien du grand public sur 7 grandes thématiques, dont la thématique de la forêt. Donc, sur le site internet du 1% pour la planète, on va retrouver différents projets. Un exemple, l'association Envol Vert, qui est une association qui lutte pour la protection de la forêt et de la biodiversité depuis 2011. Et alors, la bonne nouvelle, pour terminer, Cédric, c'est que jusqu'au 12 octobre prochain, 1% pour la planète double ses dons, double les dons qu'on va pouvoir faire. Donc, si on donne 100 euros, ça ne nous coûtera au final que 34 euros grâce à la réduction d'impôts. Et au final, l'association percevra 200 euros. Donc, une excellente idée pour soutenir la forêt.
La philanthropie fait aussi partie de ce monde de la gestion patrimoniale. Merci beaucoup Pascal. Pascal Bossan, Bossan Conseil, qui nous accompagne régulièrement sur le Green. Chaque jeudi, le marché, lui, progresse de 0,34%, 6126 points. Et nous, ça va être l'heure de répondre à toutes vos questions.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Chaque jour, en effet, nos experts sont à votre service et répondent à vos questions. Pour nous écrire, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. N'hésitez pas à nous interroger et on transmet bien évidemment à nos experts. Autour de la table ce matin, Aldo Sicurani pour la F2IC. Rebonjour Aldo et Jean-François Filiatre pour Marché Gagnant. Prêts tous les deux ?
Allez, soyons fous.
Alors, on a pas mal de questions, mais j'en ai une qui va vous concerner tous les deux et qui vient de moi, du coup, ben oui, j'ai le droit aussi de poser des questions. On vient de recevoir un communiqué qui appelle à la nomination à la présidence de l'AMF d'un épargnant, en l'occurrence de Guillaume Prache. Et dans les signataires, ben, je vous ai retrouvé, et l'un et l'autre. Alors du coup... Bon, ben, je vois bien qu'il m'a envoyé le communiqué. Ben, va falloir me dire un petit peu c'est quoi cette démarche. Parce que du coup, ça intéresse peut-être nos auditeurs qui peuvent soutenir aussi cette démarche.
Bah, alors, le mandat de Robert Ophèle a arrivé à expiration à la fin du mois de juillet. On a reçu une invitation à présenter un candidat. Et on a estimé cette année que il était important que les épargnants poussent un de leurs représentants, et pas des moindres. Alors, je rappelle que l'épargne financière des Français, c'est 6 000 milliards d'euros, dont une partie très significative est supervisée par, par l'autorité des marchés financiers. Or, dans le monde de la supervision de l'épargne, on ne peut pas dire que les épargnants soient très représentés. Même si mon camarade Jean-François Filiatre et moi-même faisons partie de la commission épargnant de l'AMF. Il se trouve que Guillaume Prache est un homme d'une très grande qualité. Il connaît très bien le milieu de l'épargne. Il est également le directeur général de Better Finance, qui est l'association fêtière des épargnants à Bruxelles. Et il est très important que le président de l'AMF ait cette expérience européenne et internationale. Et donc, ça nous a semblé un moment opportun dans ce monde qui est en train de changer à la vitesse grand V, comme on dit trivialement, que nous proposions quelqu'un de cette envergure.
Jean-François ?
Moi, je vais être honnête, je trouve que c'est majeur. Déjà, majeur parce qu'on a réussi, avec nos sensibilités différentes, représentant des épargnants, à se parler et à se mettre d'accord sur le principe d'une personne. Donc ça, c'est déjà un sujet non négligeable. Deuxièmement, il faut savoir que l'AMF est un acteur majeur. Aldo évoqué les chiffres. Moi, je voudrais évoquer un sujet institutionnel. Tout à l'heure, j'ai un peu tiré sur la CPR et sur la Banque de France, qui ont des missions prudentielles à la base. La fonction première de l'AMF, c'est de veiller à la protection de l'épargne. Donc la protection de l'épargne est un sujet majeur à l'AMF, et pour être là encore très honnête et très transparent, et avoir travaillé dans des commissions et à la CPR et à l'AMF, il y a à l'AMF une réelle culture de protection des épargnants. Elle nous paraît parfois insuffisante par rapport à ce qu'on souhaiterait, mais il n'y a pas de débat. Il y a une culture protection de l'épargne, il y a une direction spécialisée des relations avec les épargnants, etc. Donc, il y a une vraie culture là-dessus. Alors, si on rentre un peu dans les trucs de tambouille, il y avait des idées depuis des années qui consistaient à dire qu'il faudrait qu'il y ait un représentant des épargnants au collège de l'AMF. Tout ça, ça impose de changer la loi et tout ça. Donc, il nous est apparu qu'il y avait plus efficace que de faire ça. Il y avait un appel à candidature. Bon. Est-ce qu'on avait un candidat qui était un candidat crédible ? Bah, réponse oui, parce que c'est pas une candidature médiatique. On parlait de Guillaume. Ben, Guillaume, l'AMF, ça surveille les marchés, ça surveille l'activité d'asset management, ça surveille les émetteurs. Guillaume, il a été directeur financier d'une boîte cotée, il a été directeur général d'un asset manager qui est très présent sur les marchés européens. C'est un défenseur reconnu des épargnants. On se rappelle que c'est lui qui avait soulevé le sujet du CREF. Donc il est très implanté au niveau européen. Donc voilà, donc très bon, à mon avis. Moi, je suis très content. J'ai signé avec grand plaisir. Et je pense qu'il faut que l'ensemble des acteurs qui seront amenés à regarder, puisqu'il y a un jury qui sélectionne, il y a le ministère de l'économie et des finances, il y a la première ministre et la présidence de la République, il y a les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat qui vont être amenés à regarder un peu le dossier. Faut aussi qu'on comprenne que, pour reprendre le propos que j'ai tenu tout à l'heure sur la Cour des comptes, ça suffit que l'on traite les problèmes d'épargne sans intégrer les épargnants dans la réflexion.
Non, dans notre esprit, ce n'est pas une candidature témoignage.
D'accord. Et il y a d'autres candidats ?
Pour tout dire, je crois qu'il y avait les sélections. Il y avait des sélections qui avaient lieu en début de semaine. Donc il y a un jury qui a reçu des gens. J'ai pas le détail. D'accord. Pour cette candidature, mais je crois que la dernière fois qu'il y avait eu un appel à candidature, il y avait eu plus d'une vingtaine de candidats.
Bon, bah écoutez, on suivra tout ça. Allez, question de Samia maintenant, Aldo. Elle est actionnaire individuelle depuis peu, nous dit-elle, et elle s'intéresse du coup aux assemblées générales à venir, et elle ne sait pas trop ni comment ça se déroule, ni à quelle sauce elle va être mangée. Qu'est-ce qu'on peut lui dire sur les AG, Samia ?
Alors, c'est une question un peu curieuse au mois de septembre, alors que les AG, c'est plutôt au printemps. Mais Samia fait bien de s'y intéresser avec un peu d'anticipation, parce que, surtout si elle est au porteur. Si elle est au porteur, il faut interroger sa banque, son intermédiaire financier. Il y a quand même une petite démarche à faire pour recevoir tous les documents, parce que l'entreprise ne la connaît pas. Et donc, si elle ne fait rien, eh bien, elle ne pourra pas.
Première chose, il faut qu'elle se manifeste.
Il faut qu'elle se manifeste si elle est au porteur. Si elle est au nominatif administré ou au nominatif pur, alors là, c'est très simple, elle n'a rien à faire. 45 jours ou un certain moment avant l'Assemblée Générale, elle va recevoir tous les documents et elle va pouvoir voter. Alors, elle ne va pas être mangée à aucune sauce. C'est même plutôt elle qui serait en mesure d'être
d'inquiéter. Mais on entend parfois qu'il y a des âgés qui sont remuants, qu'il y a des âgés qui sont bouclés d'avance.
Il
y a beaucoup de fantasmes autour de l'Assemblée Générale.
C'est elle qui peut, en mettant son bulletin de vote, et je regrette que pas assez d'actionnaires individuels votent, alors qu'il y a maintenant des systèmes comme Vote Access en particulier, qui facilitent considérablement la vie des actionnaires et qui leur permettent de voter. Et donc voilà. Je sais pas, Jean-François, si tu veux rajouter quelque chose en particulier à propos des frais que parfois.
Non, mais il y a plusieurs sujets.
Qu'est-ce qu'on dit à Samia sur ses âgés ?
Ben moi, j'ai envie de lui dire, Aldo dit, il faut que si elle est au porteur, il faut qu'elle se renseigne, etc. Ça serait bien qu'il y ait quand même des démarches plus proactives. Enfin, les établissements financiers prennent des droits de garde, etc. Il faudrait peut-être aussi un peu qu'ils bossent. Donc, le fait de dire, d'envoyer un petit message à un client pour lui dire, vous savez, vous êtes actionnaire d'une société, il va y avoir une assemblée générale, on vous explique que vous pouvez voter. Ça, c'est du travail de place que devraient faire les établissements financiers. Parce que si on veut, je vais insister aujourd'hui beaucoup là-dessus, que l'écosystème fonctionne correctement, il faut que l'ensemble des acteurs de l'écosystème fassent un certain nombre d'efforts. Donc moi, je vais compléter sur ce que dit Aldo. Moi, je vais donner quelques petits conseils. Moi, je suis contre le pouvoir au président. Je dis, si on vote, mettre une cocher le pouvoir au président, il vaut mieux voter résolution par résolution, parce qu'on peut pas être d'accord sur tout. Et d'ailleurs, faudrait que les boîtes fassent un peu plus d'efforts pour que les résolutions soient plus lisibles. Franchement, il y a des moments, les résolutions, si vous n'êtes pas juriste, vous comprenez que dalle. Donc, à un moment, il y a tout ce travail de pédagogie. On avait eu des débats sur améliorer la qualité du questionnaire, parce que quand on a le questionnaire papier, il est incompréhensible, mais ça, c'est un peu mieux sur la partie digitale. Et puis, si on en revient sur nos sujets de place, bonjour, et il faudrait que ça se fasse très vite. Il faudrait qu'on soit capable de faire des assemblées générales où on n'ait pas besoin de se déplacer, parce qu'il y a un sujet qu'on aborde très peu, c'est l'embouteillage des assemblées générales. C'est-à-dire que des fois, si vous avez un portefeuille, un truc tout bête, ouais. on pourrait s'amuser à regarder sur le portefeuille de marché gagnant, ouais, si on avait voulu aller aux assemblées générales, si on avait pu le faire, ou si on était une journée obligé d'aller faire 3 réunions, etc. L'avenir, il est clair. L'avenir, il est là. Il est avec des caméras, des micros, des téléphones. Et donc, on n'ira pas, donc on sortira de l'image de le petit actionnaire qui vient chercher un cadeau, manger un cocktail, etc. Il sera chez lui, il sera devant sa télé, il écoutera ce que disent les dirigeants, il chattera s'il a envie d'envoyer une question, et puis il dira, telle résolution propose ça, pof, j'appuie sur oui, là j'appuie sur non. Il y a des sujets importants, la rémunération des patrons, les distributions de dividendes, donc quelque part les politiques d'investissement, etc. Donc, Samia, moi, c'est l'une des leçons, elle s'intéresse à ça, elle ne sait pas trop comment faire. Des Samia, moi, j'aimerais qu'il y en ait plus sur la place.
Bon, voilà quelques idées.
D'autant plus que les AG hybrides permettraient de sortir du tropisme parisien, qui fait que l'essentiel des gens qui viennent aux AG sont des gens de la région parisienne.
Donc, on regardera, franchement, sur le
mais on va se livrer à ça.
Sur le portefeuille, on regardera où se tiennent les AG. Et à quelle date et à quels horaires pour voir si effectivement nous
si on voulait, capables. Puisque tout l'exercice qu'on est en train de faire avec le portefeuille, c'est de se dire on se met à la place des gens.
On le fait vraiment.
Ouais, on le fait. Ouais. Ok.
Georges vous interroge. Alors, il possède un PEA de plus de 8 ans et où il a 600 000 euros, essentiellement de la plus-value, nous dit-il. Il nous précise aussi sa situation. Il est marié sans contrat. Il a 4 enfants qui sont majeurs. Lui a 72 ans et son épouse 56. Alors, il a déjà fait pas mal de choses, notamment de la donation partage pour ses enfants il y a 5 ans. Et il se demande aujourd'hui s'il serait possible et peut-être avantageux de transférer son PEA dans une assurance vie avec une souscription commune avec son épouse. Et du coup, bien évidemment, savoir si c'est une bonne idée, si ce sera bien pour la transmission aux enfants. Si...
Alors Jean-François. Réponse à Georges, c'est horrible, mais on est vraiment dans une matière où les mots ont un sens et on peut, en n'utilisant pas les bons mots, faire tout un tas de confusion. J'évoquais alors, tout à l'heure le fait qu'on fasse des plans sur lesquels il n'y avait pas de planification. Les mots ont une importance. Transférer un PEA, en fait, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Pourquoi ? Parce qu'on peut considérer qu'il y a deux approches qui se posent. Le PEA, plan d'épargne en action, est une formule qui existe sous deux approches. Le PEA est dit bancaire, où vous avez un compte espèce et un compte titre, et un PEA dit assurantiel. Donc, la question, c'est est-ce que l'on peut transférer un PEA bancaire en un PEA assurantiel ? La réponse, c'était comme à l'époque, dans les années 90, sur le plan d'épargne populaire, on a le droit de transférer un PEP ou un PEA bancaire en PEP ou en PEA assurantiel. Il n'aura pas les mêmes titres, parce que en général, la partie assurantielle, ce n'est pas sur des titres vifs dans lesquels on investit, mais c'est plutôt des unités de compte, donc ça, il a le droit de le faire. Là où il y a, là encore, un vocabulaire qui est excessivement trompeur, c'est qu'on se dit PEA assurantiel, PEA assurance. Donc, assurance, dans l'esprit de l'individu, un contrat d'assurance, c'est un contrat d'assurance vie. Sauf que le PEA assurance ne repose pas sur un contrat d'assurance vie. Le PEA assurance repose sur un contrat de capitalisation. Et quelle est la différence entre un contrat de capitalisation et un contrat d'assurance vie ? Eh bien, la différence principale, elle est où ? Elle est sur les droits de succession. C'est-à-dire que lorsque l'on parle des règles de l'assurance vie en termes de droits de succession, c'est applicable à l'assurance vie, mais pas au contrat de capitalisation.
D'accord, mais peut-être que Georges, il veut juste vendre, enfin solder son PEA et mettre ses 600 000 balles sur de l'assurance vie.
Eh ben voilà. Mais dans ce cas-là, je suis pas sûr.
C'est pas transféré.
Voilà.
Mais c'est le mot transféré qui vous titille.
Mais c'est là où je dis. Non mais c'est horrible parce que si on veut arriver à se comprendre et si on veut arriver à faire de la pédagogie, ce sens. Donc il peut effectivement tout à fait fermer son PEA. Dans ce cas-là, il va solder sa fiscalité de PEA. Il a plus de 8 ans, donc il va payer ses prélèvements sociaux à la sortie. Il va récupérer une somme, donc tout ce qu'il a, moins ce qu'il va devoir aux prélèvements sociaux, et il va pouvoir le réinvestir sur un contrat d'assurance. Et là, j'attire juste son attention, c'est qu'il a 72 ans, donc il a dépassé la règle des 70 ans. Donc, selon que le souscripteur soit lui ou sa femme...
Et il est en co-souscription. Ça va devenir compliqué là. Hein.
Voilà, donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire, s'il veut optimiser, en pratique, s'il est marié sans contrat, il met le pognon sur un contrat d'assurance vie au nom de sa femme, et elle aura le pognon à son décès, parce qu'a priori, vu la différence d'âge, en termes de probabilité, il est censé décéder avant elle. Donc ça, c'est une piste. Mais en tout cas, ce n'est pas un transfert.
Alors, si je peux me permettre, ouais. Cédric, ce que je vois, c'est qu'il a 600 000 euros, essentiellement en plus-value. Alors, le maximum que vous pouvez verser, c'est 150 000. Donc, je pars du principe qu'il a versé 150 000 et qu'il a fait 3 fois 3. Donc, bravo, Georges.
Donc, c'est bien le PEA.
Je vous invite même à l'inviter sur votre plateau pour qu'il participe à votre portefeuille, là, parce qu'il a peut-être de bonnes idées.
Il a peut-être de bonnes idées, c'est vrai.
Ah ouais, on va le garder dans la boîte.
Bon, question de Paul. Je suis majeur fiscalement rattaché au foyer fiscal de mes parents et j'ai envie de me lancer en bourse. Je peux épargner et donc investir 150 euros par mois. Comment faire ? Il nous dit, Paul, qu'il a entendu parler du PEA jeune.
Le PEA jeune, c'est une idée que nous avons beaucoup poussée et qui est en place maintenant depuis quelques années.
Majeur fiscalement, il n'a pas besoin de PEA jeune, si ?
Ah si ! Il est majeur fiscalement, mais il est rattaché au foyer fiscal.
D'accord. Oui.
Hein, ah bah donc, oui, oui, il a plus ça, de 18 ans, mais il est rattaché au foyer fiscal de ses parents. Donc,
les mots, Cédric, les mots. Non,
tant qu'il est rattaché au foyer fiscal de ses parents, il peut ouvrir un PEA jeune qui est plafonné à 25 000 euros, mais qui a les mêmes attributs que le PEA. Il peut commencer déjà à se constituer un portefeuille. Et le jour où il ne sera plus rattaché au foyer fiscal de ses parents, au plus tard à 25 ans, ce PEA jeune se transformera automatiquement en PEA, et à ce moment-là, le plafond...
En gardant l'ancienneté, etc.
En gardant l'ancienneté, bon. Et le PEA et le plafond passera à 150 000.
C'est pas mal. Et 150 euros par mois, c'est...
Ouais, là, mais juste parce qu'on est ronchon, mais constructif. Faudrait quand même dire aux établissements français qui sont nuls, parce que 150 euros par mois, s'il a envie d'acheter un portefeuille avec 10 titres, aujourd'hui, il n'y a pas un établissement français qui permet de faire ça sur le PEA. Donc, de grâce, les gars, innover, créer, avancer, parce que, en fait, il y a de la demande, il y a des gens qui sont prêts à faire des choses. C'est juste la place qui est totalement has-been.
Allez, merci beaucoup. Le temps qui nous était imparti est écoulé, donc on garde les autres questions. Il y en a notamment Pierre qui nous parlait d'EDF. Ce sera pour une prochaine fois. Dans un instant, c'est 60 minutes business avec Sandra Gandoin. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Votre programme du jour.
On va parler de la BCE. Évidemment, Christine Lagarde qui s'apprête à frapper fort cet après-midi. On saura quelle est l'ampleur de la hausse des taux décidée par la BCE. Aude Kersulek nous attend à Francfort. On va en parler en plateau avec Jean-Marc Daniel et Natacha Valla. Et puis on parlera aussi immobilier avec toujours 40% de demandes de prêts immobiliers refusés et la faute au taux d'usure. Est-ce que la solution vient du retour au taux variable? En tout cas, c'est ce que pensent les courtiers. On en parlera avec Marie-Cœur de Roy. Et puis évidemment, comme tous les jours, à 12h30, on répondra aux questions que vous nous avez posées avec Lorraine Goumeau.
Sandra Gandoin et 60 minutes business. Dans un instant, le marché parisien lui progresse de 0,29% en attendant la BCE, 6123 points. Et nous, on se retrouve demain matin à 10h. Très bonne journée.
C'était votre programme avec Corum L'Épargne, les spécialistes de l'épargne qui vous accompagnent dans vos projets d'avenir. Plus d'informations sur corum.fr.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.